Deuxième partie. AMT 1. Chapitre 7. Vol spécial. L'habitude n'y faisait rien. Songeait le docteur Ewood Floyd, le fait de quitter la Terre était toujours aussi excitant. Il avait été une fois sur Mars, trois fois sur la Lune, et si souvent jusqu'aux diverses stations spatiales qu'il ne pouvait en faire le compte. Pourtant, comme le moment du départ approchait, il prenait conscience de la tension qui montait en lui. C'était une impression d'émerveillement, une sensation de nervosité qui le mettait sur le même pied que n'importe quel terrien sur le point de recevoir le baptême spatial. Le jet qu'il avait emmené de Washington après son entrevue avec le président, à minuit, descendait maintenant vers l'un des sites les plus familiers et les plus fascinants du monde. Là, sur 20 000 de côte de Floride, les deux premières générations de l'âge spatial cohabitaient. Vers le sud, des feux rouges clignotaient, dessinant les portiques géants des Saturne et Neptune qui avaient emporté les hommes sur le chemin des planètes et qui, maintenant, étaient entrés dans l'histoire. Au bord de l'horizon, une tour argentée scintillait dans les projecteurs. La dernière Saturne V, monument national et lieu de pèlerinage depuis 20 ans. Non loin, se détachant sur le ciel comme une montagne artificielle, se dressait la masse formidable du bâtiment d'assemblage, la plus vaste construction existant sur Terre. Mais tout cela désormais appartenait au passé, et le docteur Ewood Floyd allait vers l'avenir. Comme l'avion descendait encore, il découvrit une mosaïque de bâtiments, une large piste, puis une cicatrice toute droite au milieu du paysage. Les rails multiples d'une rampe de lancement géante. À son extrémité, entouré de véhicules et de portiques, un astronef était prêt à bondir vers les étoiles. Il scintillait dans la lumière et la rapide descente vers le sol suscitant soudain une modification de perspective, Floyd eut l'impression de contempler un petit papillon d'acier pris dans le faisceau d'une torche électrique. Puis les minuscules silhouettes qui se hâtaient au sol lui firent à nouveau apparaître les véritables dimensions de l'engin. Il devait bien mesurer 60 mètres au niveau de ses ailerons en V. Floyd songea avec incrédulité et un rien de fierté que cet énorme véhicule spatial l'attendait, lui. À sa connaissance, c'était bien la première fois qu'une mission complète était mise sur pied pour conduire un seul homme sur la Lune. Il était 2 heures du matin. Pourtant, un groupe de journalistes et de photographes l'intercepta sur le chemin de l'Orion 3. Il connaissait certains d'entre eux de vue, car en tant que président du Conseil national d'astronautique, les conférences de presse lui incombaient. Mais ce n'était ni le lieu ni l'heure pour en improviser une, et il n'avait rien à leur déclarer. Cependant, il était important de ne jamais offenser les responsables des médias.
« Dr. Floyd, Jim Forster de la Associated News !» Pouvez-vous nous dire quelques mots à propos de votre voyage ?
Désolé, je n'ai vraiment rien à déclarer.
Vous avez pourtant rencontré le président cette nuit !
Lança une voix familière.
Oh, salut Mike. Je crains que l'on ne vous ait tiré du lit pour rien. Je n'ai aucun commentaire à faire.
Pouvez-vous au moins nous confirmer au nom qu'une épidémie a éclaté sur la Lune ?
Demanda un reporter de la TV en réussissant à se déplacer sans cesser de tenir Floyd dans le viseur de sa caméra miniature.
Désolé. Je ne peux pas.
Et la quarantaine ?
Demanda un autre reporter.
Combien de temps va-t-elle encore durer ?
Je n'ai rien à dire.
Docteur Floyd ?
Demanda une jeune demoiselle, petite et décidée.
Quelle justification peut-on fournir à ce blackout total des informations concernant la Lune ? Cela a-t-il quelque rapport avec la situation politique actuelle ?
Quelle situation politique ?
Il y eut quelques rires et quelqu'un lança
« Bon voyage, docteur !»
au moment où il pénétrait dans le sanctuaire du bureau d'embarquement. La situation politique, aussi loin qu'il se souvint, avait toujours été proche d'une crise permanente. Depuis les années 70, le monde était dominé par deux problèmes qui, ironiquement, tendaient à s'annuler mutuellement. Bien que le contrôle des naissances fût avéré sûr et économique et qu'il eût été admis par les grandes religions, il était venu trop tard. La population mondiale atteignait maintenant 6 milliards, dont un tiers dans l'Empire chinois. Certains gouvernements autoritaires avaient voté des lois limitant la famille à 2 enfants, mais leur application s'était révélée impossible. Le résultat était maintenant que la nourriture manquait dans tous les pays. Les États-Unis eux-mêmes connaissaient des jours maigres et l'on prévoyait la famine générale d'ici 15 ans, en dépit des efforts qui avaient été accomplis pour coloniser la mer et développer les aliments de synthèse. Plus que jamais, la coopération internationale était nécessaire, mais les frontières étaient toujours aussi nombreuses que par le passé. En 1 million d'années, la race humaine avait perdu bien peu de son agressivité. À travers des lignes de partage symboliques qui n'étaient évidentes que pour les politiciens, les 38 puissances nucléaires s'observaient avec méfiance. Elles possédaient en commun assez de mégatonnes pour faire sauter la planète. Par miracle, nul n'avait encore déclenché le conflit, mais la situation ne pourrait se prolonger indéfiniment. Les Chinois, pour des raisons mystérieuses, venaient de mettre à la disposition des pays encore démunis une puissance de 50 ogives nucléaires avec leurs vecteurs. Le prix en était de 200 millions de dollars et des facilités de paiement étaient offertes. Peut-être, ainsi que l'avaient suggéré certains observateurs, essayaient-ils de renflouer leur économie défaillante en faisant rentrer des devises. À moins qu'ils n'aient découvert des armes si perfectionnées qu'elles renvoyaient toutes les autres au rang de simples joujoux. On parlait de radiohypnose à partir de satellites, de virus, de chantage grâce à quelques fléaux de synthèse dont les Chinois seraient seuls à posséder l'antidote. Ces idées charmantes appartenaient très certainement à l'arsenal de la propagande de pure imagination, mais on ne pouvait raisonnablement les écarter toutes. Chaque fois qu'il quittait la Terre, Floyd se demandait si elle serait encore là à son retour. L'hôtesse impeccable l'accueillit à l'entrée de la cabine.
« Bonjour, Dr. Floyd. Je suis Miss Simmons. Je vous souhaite la bienvenue à bord de la part du capitaine Tynes et de notre copilote, le premier officier Ballard. »«
Merci. » répondit Floyd en souriant, tout en se demandant pourquoi les hôtesses avaient toujours une voix de robot.
« Départ dans 5 minutes !»
reprit Miss Simmons en désignant la lignée des 20 sièges vides.
« Choisissez votre place, docteur. Le capitaine Tynes vous recommande le hublot bâbord avant si vous désirez suivre les opérations de départ. »«
D'accord, » fit-il en se dirigeant vers le siège indiqué. L'hôtesse s'occupa encore de lui pendant quelques instants, puis elle se dirigea vers son habitacle au fond de la cabine. Floyd s'ajusta dans son siège et boucla le harnais de sécurité autour de sa taille et de ses épaules. Puis il plaça sa serviette sur le siège voisin et l'attacha. Un instant plus tard, la voix de Miss Simmons se fit entendre dans le haut-parleur.
« Vol spécial 3 de Kennedy à station spatiale numéro 1. »
Il était évident qu'elle était tout à fait décidée à se conformer à la routine pour le bénéfice de son seul et unique passager et, comme elle poursuivait inexorablement, Floyd ne put s'empêcher de sourire.
« Notre voyage durera 55 minutes. L'accélération maximale atteindra 2G et nous serons en apesanteur durant 30 minutes. Veuillez ne pas quitter votre siège jusqu'à l'apparition du signal de sécurité. »
Floyd tourna la tête et dit « Merci. » Ce qui lui valut un sourire charmant et quelque peu embarrassé. Il se laissa aller dans son fauteuil et se détendit. Il songea que ce voyage allait coûter environ 1 million de dollars d'impôts. S'il n'était pas justifié, il perdrait son emploi. Mais il aurait toujours la possibilité de retourner à l'université et à ses recherches interrompues sur la formation des planètes.
« Compte à rebours automatique !»
dit la voix du capitaine sur le ton chantant des opérations de routine.
« Décollage dans 1 minute !»
Comme d'habitude, cela parut durer plus d'une heure. Floyd prit conscience des forces colossales qui l'entouraient, attendant d'être libéré. L'énergie d'une bombe atomique était déversée dans les réservoirs de l'astronef et la rampe de lancement. Et cela suffirait à l'envoyer à 200 000 milles de la Terre. Le 5-4-3-2-1 des jours anciens, si éprouvant pour les nerfs, avait été supprimé.
« Décollage dans 15 secondes. Vous serez plus à l'aise si vous commencez à respirer profondément. »
C'était de l'excellente psychologie et de l'excellente physiologie tout aussi bien. Floyd se sentait empli d'oxygène, prêt à tout affronter lorsque la rampe de lancement expédia les 1 000 tonnes de l'astronef au-dessus de l'Atlantique. Il eût été difficile de dire à quel moment l'engin quitta la rampe, mais quand le grondement des fusées se fit soudain deux fois plus puissant et que Floyd sentit qu'il s'enfonçait de plus en plus dans son siège, il sut que les moteurs du premier étage venaient d'entrer en action. Il eût aimé regarder par le hublot, mais il ne parvenait pas à bouger la tête. Pourtant, il n'éprouvait aucun malaise. La pression et le grondement des moteurs finissaient par engendrer une espèce d'euphorie extraordinaire. Les oreilles bourdonnantes, le sang battant dans ses veines, Floyd se sentait plus vivant que jamais, plus jeune. Il avait envie de chanter, et il pouvait sans doute se le permettre, puisque nul ne pouvait l'entendre. Cette impression disparut rapidement, et il se prit soudain à songer qu'il quittait la terre et tout ce qu'il avait jamais aimé. Là, tout en bas, il y avait ses trois enfants qui n'avaient plus de mère depuis ce fatal voyage en Europe 10 ans auparavant. 10 ans ? Impossible. Pourtant, il aurait sans doute dû se remarier, rien que pour eux. Il avait presque perdu le sens du temps lorsque la pression et le bruit disparurent soudain. Le haut-parleur annonça « Attention à la séparation du premier étage ». Il y eut une légère vibration et Floyd, tout à coup, se souvint d'une citation de Léonard de Vinci qu'il avait lue une fois dans un bureau de la NASA. « Le grand oiseau prendra son vol depuis le dos du grand oiseau, ramenant la gloire au nid originel. » Eh bien, le grand oiseau volait maintenant. Il dépassait les rêves de Léonard de Vinci et son compagnon épuisé revenait vers la Terre. Glissant au long d'un arc de 10 000 miles, le premier étage regagnait l'atmosphère, retournant vers Cap Kennedy. D'ici quelques heures, vérifié et ravitaillé, il serait de nouveau prêt à emmener un autre compagnon vers les solitudes scintillantes que jamais il n'atteindrait. « Nous voici livrés à nous-mêmes, » songea Floyd. Plus de la moitié du chemin était faite. L'accélération se manifesta de nouveau, mais plus légèrement, quand les fusées supérieures se déclenchèrent. Cela dépassait à peine la gravité normale. Mais il eût été impossible de marcher puisque le haut était constitué par le devant de la cabine. Si Floyd avait été assez stupide pour quitter son siège, il se serait écrasé sur la paroi opposée. C'était quelque peu déconcertant, car on avait l'impression que le vaisseau était dressé sur sa queue. Floyd se trouvait sur l'avant, et les autres sièges lui apparaissaient comme fixés à un mur qui plongeait verticalement sous lui. Il fit de son mieux pour ignorer cette pénible illusion, jusqu'au moment où l'aube se leva au dehors. En quelques secondes, ils traversèrent des voiles écarlates, roses, dorées et bleues, et surgirent dans l'éclatante blancheur du jour. En dépit du vert teinté des hublots, Floyd demeura pendant plusieurs minutes à demi aveuglé par les rayons de soleil qui se déplaçaient lentement dans la cabine. Bien qu'il fût en plein espace, il n'était pas question de pouvoir contempler les étoiles. Il mit ses mains devant ses yeux et risqua un regard jusqu'au hublot. Au dehors, un aileron brillait comme chauffé à blanc dans l'éclat du soleil. Alentour, tout était obscur et cette obscurité était très certainement emplie d'étoiles qu'il était impossible de voir. Le poids diminuait lentement. Les fusées s'éteignaient progressivement tandis que l'astronef se plaçait sur son orbite. Le tonnerre des moteurs devint un grondement étouffé, puis un timide sifflement qui fit place au silence. S'il n'avait pas été retenu par son harnais, Floyd aurait flotté hors de son siège. Son estomac, en tout cas, semblait bien vouloir prendre ce chemin. Il fit le souhait que les pilules qu'on lui avait données 1 demi-heure et 10 000 miles auparavant fissent leur effet. Il avait eu le mal de l'espace une seule fois dans sa carrière et ça avait été une fois de trop. La voix du pilote se fit entendre, ferme et confiante. « Veuillez observer les prescriptions 0G. Nous aborderons la station numéro 1 dans 45 minutes. » L'hôtesse s'approcha dans l'étroit couloir, à droite des rangées de sièges. Une lourdeur à peine perceptible marquait ses pas. Ses sandales semblaient s'arracher difficilement au sol, comme si elles étaient enduites de colle. Elle se tenait sur un ruban de velcro jaune qui allait d'une extrémité à l'autre de la cabine et du plafond. Le ruban, tout comme les semelles de ses sandales, était recouvert de myriades de crochets minuscules adhérents les uns aux autres. Le fait de pouvoir marcher ainsi en apesanteur était extraordinairement rassurant pour les passagers désorientés.
Désirez-vous du thé ou du café, docteur ?
Non, merci.
Il sourit. Ces tubes de plastique que l'on devait téter lui donnaient toujours l'impression d'être redevenu un bébé. L'hôtesse tournait autour de lui tandis qu'il ouvrait sa serviette et mettait de l'ordre dans ses papiers.
« Docteur Floyd, puis-je vous poser une question ?»«
Mais certainement. »
Il regarda par-dessus ses lunettes.
« Mon fiancé est géologue à Clavius, »
dit Miss Simmons en choisissant soigneusement ses mots.
« Je suis sans nouvelles de lui depuis une semaine. »«
J'en suis navré, mais peut-être n'est-il pas à la base même.
Il est possible qu'on ne puisse entrer en contact avec lui pour l'instant. » Elle secoua la tête.
« Il m'avertit toujours en pareil cas. Vous comprenez sûrement que je me fais du souci avec tous ces bruits qui courent. Est-ce vrai, ce que l'on dit, qu'il y aurait une épidémie sur la Lune ?»«
Si c'est le cas, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. »
Souvenez-vous de cette quarantaine en 98 à cause du virus de la grippe qui avait muté. Il y a eu beaucoup de malades, mais personne n'est mort. C'est tout ce que je puis vous dire. Il avait conclu d'un ton ferme. Miss Simmons se redressa en souriant.
Je vous remercie, docteur. Excusez-moi de vous avoir dérangé.
Mais pas du tout,
fit-il, galamment mais sans conviction. Puis il essaya, en un ultime effort, de se plonger dans la masse des documents et rapports techniques. Sur la Lune, il n'aurait certainement pas le temps de lire.